que ve això ho tinc de
gerar. Digo de Radio France Internacional.
Dice Eco Sire.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction chinoise, Hermine Roumilhac.
Mira.
Pour l'affaire de la disparition de l'ancien président d'Interpol. Sarah Elsass de la rédaction anglophone.
Good evening.
À propos de, du Canada, qui légalise la consommation du cannabis. Et Matei Vichniec de la rédaction roumaine.
Buonasera.
Pour nous parler d'un référendum controversé, critiqué par l'Union européenne. Bonsoir à vous tous. Mais avant cela, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine, à savoir la disparition de Jamal Khashoggi au consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul et ses conséquences politiques et diplomatiques. Matei, nous attendons la vérité d'ici à la fin de la semaine, dit Donald Trump, mais certains ont l'impression que la Maison-Blanche veut couvrir Riyad.
Oui, on a l'impression qu'un scénario se profile à l'horizon, celui de la désignation d'un bouc émissaire. On va nous dire peut-être que des éléments non contrôlables ont commis la boucherie et que l'idée n'émane pas du prince héritier. Ainsi, tout le monde sera content. De toute façon, l'Amérique a des énormes intérêts stratégiques en Arabie Saoudite. L'économie d'abord, mais aussi la coopération militaire avec Riyad, notamment dans la lutte contre le terrorisme et pour contrer l'influence de l'Iran. Jamal Khashoggi, dans son dernier article publié par Washington Post, déplore le manque de liberté de la presse dans le monde arabe et dit, je cite, « Hélas, ces situations ne changera probablement pas ». On peut dire peut-être la même chose concernant les relations entre les pays occidentaux et l'Arabie Saoudite, pays où les mots « démocratie » et « droit de l'homme » n'ont aucun sens. « Hélas, cette situation ne changera probablement pas ».
Sarah, vous êtes intéressée, vous, à ce qu'on pense de tout cela. En Arabie Saoudite, bien évidemment, le prisme est totalement différent.
Hein. En fait, oui. Où ici, et en Europe, on parle des droits de l'homme et les choses comme ça. Là-bas, il y a des questions vraiment de... Ils se sentent un peu visés de ce qui s'est passé. En fait, c'est en fait ce qu'il nous a dit Riyad Khawaji, qui est le directeur du think tank Enigma à Dubaï. Les Saoudiens, ils sont fâchés.
There's a lot of anger because they feel that this condemnation and charges, especially that nothing has.
Alors que dit ce responsable d'un centre de réflexion?
Eh bien, il dit il y a beaucoup de colère. Les Saoudiens se sentent visés et condamnés, même si rien n'a encore été officiellement prononcé. Le sentiment, il dit, est que il faut avoir des preuves conclusives sur ce qui s'est passé à Khashoggi avant que ce soit comme action de punition ou quoi que ce soit. Riyad a bien sûr prévenu des sanctions à son tour si Donald Trump impose quoi que ce soit comme punition sur l'Arabie Saoudite. On peut rappeler, bien sûr, que l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, membres de l'OPEP, ont imposé une hausse du prix du pétrole, décrétant un embargo contre les pays occidentaux après la guerre de Kippour en 1973, qui a provoqué, bien sûr, une crise pétrolière mondiale.
Matei, d'après certaines informations, les membres de la famille royale en Arabie Saoudite se penchent, dans la plus grande discrétion, bien évidemment, sur le cas de Mohamed Ben Salman, qui dirige le pays. Et vous avez parlé, Matei, dans votre rédaction, de l'image qu'il renvoie aujourd'hui.
Oui, une image qui fait peur, car c'est l'image d'un prince avide du pouvoir absolu et qui veut régner par la peur. En quelques jours, l'image de Mohamed Ben Salman, qui était encore acceptable, cette image avant la date du 2 octobre, s'est profondément dégradée. La presse internationale n'hésite plus de le qualifier de despote, comme le fait le Courrier international. On l'accuse aussi d'être atteint par cette vieille maladie du pouvoir que les Grecs anciens appelaient hubris, ce qui est plus que de la mégalomanie. C'est lorsqu'un prince ou un roi se croit carrément Dieu. Le journal Le Monde lui donne le titre de prince du chaos. En ce moment, celui qui était vanté par sa volonté réformatrice est considéré maintenant en mauvaise posture ou même en disgrâce. Est-ce qu'on va assister à sa chute rapide après avoir assisté à son ascension fulgurante? On lui a toléré l'embargo contre le Qatar, la guerre sanglante au Yémen, les purges d'intellectuels et des défenseurs des droits, mais apparemment la communauté internationale n'est pas prête à oublier l'affaire Jamal Khashoggi.
Alors justement, cette communauté internationale, Hermine, elle commence à agir, elle fait pression à travers l'organisation de cette grande conférence économique organisée à Riyad dans quelques jours.
Oui, cette conférence surnommée Davos du désert s'appelle Future Investment Initiative, prévue du 23 au 25 octobre. Il est considéré comme une vitrine aux réformes économiques lancées par le prince héritier, donc le fameux fameux Mohamed Ben Salman. Il est l'homme fort du pays, mais il est aussi soupçonné d'être celui qui est caché derrière l'assassinat atroce du journaliste. Son ambition, projet, est de transformer de son pays en géant des services et de la haute technologie.
Vendredi dernier, en tout cas, il était annoncé que le ministre américain du Trésor et la patronne du Fonds monétaire international n'en seraient pas de ce Davos du désert. On comprend, hein, Hermine, ces dirigeants n'ont pas envie d'aller s'afficher à côté du prince héritier. Cela dit, l'Arabie Saoudite est riche en pétrole, c'est aussi l'un des plus grands importateurs d'armes. Oui. Le business va reprendre progressivement quand cette affaire passera ?
Oui, en fait, entre l'intérêt et le moral, c'est difficile de prendre des décisions, hein. L'Arabie Saoudite est le premier pays exportateur du pétrole, est le deuxième acheteur d'armes, donc entre le moral et l'intérêt. Donc le choix semble difficile pour les dirigeants. Avec sa façon habituelle, c'est le président américain, M. Trump, il a très bien résumé la triste réalité de l'enjeu de cette affaire. En fait, il y a quelques jours, pour justifier son attitude jugée par la presse trop clément face à la mort atroce du journaliste, il a dit que son pays ne peut pas prendre le risque de perdre un client aussi important que l'Arabie Saoudite, ce serait comme pour offrir gratuitement ce marché des dizaines de milliers de dollars aux Russes et aux Chinois. En effet, Riyad a l'ambition d'être le leader dans la région. Pour y arriver, le moyen le plus efficace, c'est bien sûr d'acheter des armes toujours plus modernes, toujours plus nombreuses. Son budget augmente chaque année, à part l'USA, la Russie et la Chine, qui sont les trois premiers grands vendeurs, les pays européens ont réussi également à gagner leur part de cadeau aussi.
Les États-Unis et la Russie dominent toujours le marché des armes. La Chine, puisque vous êtes de la rédaction chinoise, a rattrapé son retard.
Oui, elle a rattrapé son retard. Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les entreprises européennes avaient exporté entre 2001 et 2015 pour 57 milliards d'euros d'armement vers Riyad. De fait, près de 60% de l'armement saoudien provenait alors d'Europe. Riyad a aidé le deuxième client de la France pour la prise de commande sur la décennie 2007 à 2016. Vous voyez, il y a beaucoup trop d'enjeux économiques, voire géopolitiques dans cette région, donc c'est difficile à prendre une décision.
Sarah, je reviens au boycott de ce qu'on appelle donc le Davos du désert. Il montre à quel point l'impact, cet événement a beaucoup d'impact.
Oui, en fait, beaucoup d'impact. On voit les personnes qui décident de pas assister donc à cette conférence, mais comme Mathilde l'avait évoqué, il y a bien sûr c'est cette affaire qui prend l'attention et d'autres affaires prennent moins attention des investisseurs. Nous avons parlé avec Ali Ahmed, un Saoudien, directeur de l'Institut des affaires du Golfe à Washington. Il analyse que cette affaire porte plus de poids que d'autres, comme par exemple la guerre au Yémen.
This murder has really destroyed much of what has been built and made in the past few years.
Ah, pour lui, quel est l'impact de cet assassinat?
Donc, il dit le meurtre a détruit la crédibilité qui a été construite par le gouvernement saoudite depuis quelques années, mais que la guerre au Yémen, la famine là-bas sont encore plus importants. Mais le meurtre a vraiment frappé ses investisseurs. C'est qu'il nous montre, il dit, la nature du commerce. Ils s'occupent pas de la moralité de quelque chose, mais de la publicité. Ils ne veulent pas être publiquement associés avec un tel.
Et c'est le cas également du ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, qui n'en sera pas, Mattei. Malgré tout, malgré ces défections, ces absences, vous pointez une certaine hypocrisie de l'Occident.
Oui, et je ne peux pas m'empêcher de penser à une autre affaire retentissante, celle de Salman Rushdie. Dans son livre « Décadence », Michel Onfray dit que l'Occident est mort en 1989 après la fatwa prononcée par l'ayatollah Khomeini contre l'écrivain Salman Rushdie. Et c'est alors que les grandes démocraties n'ont pas su donner une riposte militaire, politique, diplomatique, économique au régime des ayatollahs. Si on a la preuve, dans quelques jours, que le journaliste Jamal Khashoggi a été vraiment tué sous l'ordre de Mohamed Ben Salman, et si l'Occident ne réagit pas d'une manière digne et forte, il a l'occasion, l'Occident, de mourir encore une fois, je crois. Je dis tout cela parce que le boycott du Forum économique de Riyad cache une certaine hypocrisie. Aucun pays occidental ne veut vraiment couper les relations économiques avec l'Arabie Saoudite. Et j'ai lu des éditoriaux où on dit que la plupart des dirigeants occidentaux attendent en effet que la tempête passe pour pouvoir continuer à investir en Arabie Saoudite.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette affaire. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Bienvenidos a este informativo de Radio Live with me, today's
headlines. Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Avec la rédaction chinoise, intéressons-nous à une autre mystérieuse affaire, une disparition là aussi. Il s'agit de celle du président d'Interpol, c'est-à-dire de la police internationale, Hermine Rumilak. Il s'agit de Meng Hongwei.
Oui, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas donné de signe de vie. Donc cette affaire a fait beaucoup de bruit dans le monde entier pour principalement 2 raisons. D'abord, il s'agissait pour la première fois de la disparition mystérieuse du patron d'un organisme international si prestigieux. Ensuite, elle met en lumière sur la scène internationale les méthodes obscures pratiquées par le régime chinois contre ses hauts responsables, en fait sous la couverture de la campagne anticorruption. Monsieur Meng occupait aussi le poste du vice-ministre de la sécurité publique de la Chine, en fait. Certes, monsieur Meng n'était pas le premier cas de disparition de ce genre en Chine depuis quelques années. Il y a de plus en plus de hauts responsables chinois disparaissent sans aucune explication pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois avant que Pékin n'annonce qu'il faisait l'objet d'une investigation, souvent dans le cadre d'affaires de corruption. Les jugements se font sans avocat, on n'entend jamais les familles se prononcer un mot. Mais la femme de Meng Hongwei, Grace Meng, a choisi d'agir autrement. Elle a décidé de porter l'affaire devant la justice française le 5 octobre, 10 jours après le départ de son mari pour Pékin.
Et alors depuis, quelles sont les nouvelles, s'il y en a ?
Après la révélation de l'affaire dans la presse du monde entier, l'Office chinois de lutte contre corruption s'est vu obligé d'annoncer très brièvement le soir du 7 octobre que Meng Hongwei faisait l'objet d'une enquête, on n'en doute pas, pour violation présumée de la loi de corruption, Baudouin. Madame Meng a donné ensuite une conférence de presse filmée. Parmi les preuves d'inquiétude qu'elle a données publiquement, le dernier message que son mari lui a envoyé, c'était une image d'un couteau qui signifie pour elle que son mari était en danger de mort. Donc l'Interpol a reçu dessus, dans la même journée de la conférence de presse de Madame Meng, une lettre de démission de Monsieur Meng Hongwei. Et le ministère de la Sécurité publique de la Chine a également précipité un communiqué pour soutenir d'abord la décision du gouvernement, mais sans donner aucun détail pour les délits présumés tant critiqués par Monsieur Meng.
Alors, plus rien. Faire disparaître un dirigeant d'un organisme international très connu, bien sûr, ça discrédite forcément l'image de la Chine. Comment est-ce expliquer que le pouvoir, que Pékin prenne un risque pareil?
En fait, pour l'instant, personne ne sait exactement ce que Pékin reproche à Monsieur Meng. Selon les analystes et des observateurs, cette façon d'agir ne signifie pas qu'il méprise les règles internationales, mais plutôt qu'ils n'ont pas prévu les réactions de Madame Meng. Le fait de porter l'affaire devant la justice française aurait saboté tous les plans prévus par Pékin. Donc Monsieur Meng Hongwei lui-même, on dit que c'est un pur produit du régime chinois. Il est presque impossible de croire qu'il n'a jamais commis d'actes de corruption ou d'autres actes de
malversation.
Oui.
Cela dit, vous avez demandé, vous, son avis. Cette question, est-ce que Meng Hongwei menaçait en quelque sorte le régime pour disparaître ainsi?
En fait, dans une interview parue ce vendredi, Madame Meng a dénoncé clairement la persécution politique de Pékin. Elle dit ne pas être sûre que son mari est encore en vie. Et le dissident chinois, M. Wang Jingtao, exilé aux États-Unis, pense aussi que Meng Hongwei est devenu trop dangereux pour le régime. On l'écoute. Donc il dit que selon lui, Meng Hongwei qui occupait des postes très importants depuis l'an 2000, il connaît très bien les dessous de table de cette campagne soi-disant anticorruption. Donc il connaît comment M. Xi Jinping a fait pour faire partir ses rivaux. Donc du coup, il est devenu trop dangereux pour la stabilité du régime.
Donc c'est la question est de savoir si le gouvernement a voulu le réduire au silence. C'était Hermine Rumilak de la rédaction chinoise. Il y a de longues files d'attente devant les boutiques de cannabis au Canada, sachant que la vente de l'herbe est désormais légale. Le Canada est en effet devenu le deuxième pays au monde à légaliser la consommation de cannabis à des fins récréatives, 5 ans après l'Uruguay, Sarah Elsass.
En fait, oui, depuis mercredi, c'est légal de consommer du cannabis au Canada et de cultiver une petite quantité chez soi. Ça a bien du succès, il y a même un début d'une pénurie dans plusieurs provinces. Pas toutes les provinces n'ont pu donner des permis de vendre, en fait, et beaucoup de grandes villes restent sans magasins. Dans la province la plus à l'est du Canada, la Terre-Neuve et Labrador, il y a eu du cannabis. Et nous avons pu parler avec Thomas H. Clark dans la petite ville de Portugal Cove, qui se considère un militant dans la lutte sociale.
My second customer was a lady who rode a scooter Que vous a-t-il expliqué?
Il dit que sa deuxième cliente mercredi était une dame en fauteuil qui souffre de la sclérose en plaques qui habite à côté du magasin. Il lui a dit que ce magasin était pour elle, cet emplacement, et pour que les habitants de cette petite ville peuvent être bien servis. Au niveau de la demande au Canada, il faut savoir qu'il y a environ 120 producteurs de cannabis autorisés qui ne pourront combler que 30 à 60% de la demande pour l'instant.
Alors est-ce que du coup, il y a des Américains qui risquent de franchir la frontière pour venir en acheter?
Eh ben, en fait, c'est très tentant, mais pour l'instant, il semble que les opérateurs de tourisme ne sont pas encore en train de faire la promotion. Ils sont pas sûrs des règles, justement. Des panneaux dans les stations de bus sont apparus mercredi expliquant comment transporter le cannabis et que faire en quittant le pays, bien sûr, le laisser au Canada. Il faut savoir que le Canada essaie de tirer des leçons des États américains où ça a déjà été légalisé, la Californie dernièrement. C'est assez encadré au Canada. Le cannabis ne peut être vendu que dans les magasins spécifiques aux adultes. Au Québec, ce sont les magasins d'État et ça peut être pas fumé partout non plus. Aussi, une taxe permet un investissement dans la prévention, surtout envers les jeunes.
Alors bien évidemment, cette légalisation au Canada soulève des débats autre part.
Bien sûr, ça va dans la direction de la normalisation pour les pays qui cherchent une alternative à la prohibition. 30 États américains permettent l'usage médical, 8 à l'usage récréatif. D'autres pays pensent voter ça dans un référendum, par exemple, en Nouvelle-Zélande. Ici en Europe, on n'est pas encore à ce point-là. L'Allemagne et le Royaume-Uni sont en train de débattre le cannabis à l'usage médical. Bien sûr, aux Pays-Bas, le plus connu, la vente est permise dans les coffee shops, mais illégale autre part. Et ici en France, le pays européen qui consomme le plus de cannabis, bah, l'interdiction reste, et ça depuis 1970.
Sarah Elsass de la rédaction anglophone de RFI. En Roumanie vient d'avoir lieu un référendum controversé, critiqué par l'Union européenne. Matei Vichniec, le pouvoir sociodémocrate, a voulu inscrire dans la Constitution une nouvelle définition du mariage.
Le mariage est défini en ce moment comme une union civile entre des époux, mais le pouvoir voulait une précision, c'est-à-dire que seulement un homme et une femme peuvent se marier. Et tout cela au nom de la défense de la famille traditionnelle. Il faut dire aussi que le référendum a été organisé après une campagne massive organisée par des ONG proche de l'église orthodoxe. Ces ONG avaient collecté 3 millions de signatures en faveur de la famille traditionnelle.
Alors Matei, la situation est assez paradoxale. Plus de 90% des électeurs qui se sont déplacés au vote ont dit oui, mais le référendum n'a pas été validé.
Non, parce que l'abstention a été massive. Presque 90% des électeurs n'ont pas fait le déplacement. C'est aussi une manière de voter, sans doute. Il fallait le vote de 30% minimum des inscrits pour que le référendum passe. Personnellement, je crois que les appels à boycotter le référendum ont été entendus. Des appels venant de la communauté LGBT, mais aussi de la part des nombreuses organisations de la société civile et de la part de nombreux artistes et intellectuels, comme c'est le cas du Christian Mungiu, très connu aussi en France, cinéaste, primé deux fois à Cannes. Écoutons-le.
Finalement, la vote, parce que mi pare que c'est une cheltuielă inutile, un fan care s-au pierdut alte teme.
Que dit Christian Mungiu?
Il dit, en résumé, non, je ne vais pas aller voter. Ce vote est une manipulation pour faire oublier les problèmes économiques. C'est un vrai gaspillage d'argent. Et je ne veux pas faire le jeu de pouvoir.
Alors, on le disait, ce référendum n'a pas été validé, mais le débat a été quand même très important, Mathieu.
Oui, je crois que beaucoup de gens ont dû se positionner par rapport à ce thème. Le mariage en personne, de personnes du même sexe. Je suis sûr que le débat a eu aussi une portée pédagogique, même si l'Église orthodoxe est très puissante et fait pression pour imposer sa vision sur l'amour, la famille, le mariage et le sexe. J'ajoute que la législation roumaine n'autorise ni le mariage entre personnes du même sexe, ni leur union civile, mais le pouvoir voulait que cette interdiction soit gravée dans le marbre constitutionnel. L'échec du référendum est une victoire de la société civile, en effet. Une preuve que la société roumaine évolue et ose aborder des sujets qui ont été tabous pendant un demi-siècle ou même plus.
Matei Vichniec de la rédaction roumaine de Radio France Internationale. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde et dans quelques instants, l'actualité internationale sur RFI. Merci pour votre écoute.